Bienvenue pour votre rendez-vous avec l'École Ferrandi Paris, un podcast d'inspiration sur les grandes problématiques de la restauration et de l'hospitalité. Tous les mois, experts, chefs, dirigeants, hôteliers, sommeliers, pâtissiers, designers, professeurs échangent sur les innovations et les bonnes pratiques du secteur et partagent leur vision de l'hôtellerie-restauration de demain. Aujourd'hui au menu, chef sans restaurant fixe, un modèle pour durer ? Pourquoi les chefs volants sont-ils de plus en plus nombreux depuis 10 ans ? Food truck, chef à domicile, chef en résidence, quel modèle pour se lancer dans l'aventure entrepreneuriale ? Chef volant, est-ce l'équation gagnante ? Et le consommateur, lui, qu'a-t-il à y gagner ? Voici quelques-unes des questions auxquelles nous allons tenter de répondre avec nos invités. Aujourd'hui, autour de la table, Chloé Charles, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes un peu chez vous, hein, diplômé de l'école Ferrandi, passé par les cuisines d'Anne-Sophie Pic, Septime ou l'Agapé Substance. Vous êtes la première à avoir officié chez Fulgurance en 2015, on y reviendra. Vous avez beaucoup voyagé, vous avez été durant plusieurs années chef à domicile ou chef en mission, incarnant finalement la chef nomade par excellence. Vous avez succombé aux sirènes de Top Chef, vous êtes réputé pour votre chasse au gaspillage et votre cuisine éco-responsable. Et l'an dernier, vous avez posé vos valises chez Lago, dans le 11e, 25 rue Sedaine, c'est bien ça ?
Tout à fait.
Qui est tout sauf un restaurant classique, on y reviendra. Avec nous également, Jérémy Megali, bonjour.
Bonjour.
Et Sho Miyashita, bonjour.
Bonjour.
Sho, vous êtes né à Tokyo, arrivé en France en 2010, vous avez pu vous y installer en 2013. Vous êtes aujourd'hui chef de Aikara Food à Paris, rue de la Folie Méricourt, dans le 11e, mais... Tous les deux, avec donc votre complice Jérémy, rencontré chez Chamarré. Vous avez bourlingué depuis 2016, de food truck en résidence éphémère, en passant par l'événementiel. Et vous avez toujours votre camionnette. Vous nous raconterez tout ça dans un instant. Julie Gerbet avec nous, bonjour.
Bonjour.
Ancienne journaliste, vous avez fondé fin 2020 avec votre complice Margot Décatoire, l'agence La Relève. C'est bien ça.
Tout
vous
à
représentez
fait.
Et accompagnez une quinzaine de chefs, souvent issus de Top Chef, mais pas que. Vous les mettez en relation avec des marques, lieux, manifestations qui ont besoin de chefs. Et il vous arrive de gérer des restaurants en résidence. C'est ce de quoi nous allons parler ensemble. Alors finalement, la première question, c'est pourquoi on devient chef nomade quand on est globetrotter, je le disais à l'instant comme vous, Chloé et Charles. Qu'est-ce qui fait que quand on est globetrotter dans l'âme, vous avez beaucoup voyagé, c'est ce qui fait qu'à un moment donné, on se dit « je ne vais pas me poser en étant chef ».
Déjà, je crois que... Enfin, moi, j'ai travaillé 10 ans, on va dire, même 12, on va dire classiquement, dans la restauration, avant de me poser la question de l'entrepreneuriat. J'ai commencé la cuisine en me disant qu'à 30 ans, j'aurais mon restaurant. Puis, je suis arrivé à mes 30 ans et un peu au moment où c'était l'heure de créer un restaurant. Et je me suis dit, mais est-ce que j'ai vraiment envie de... finalement de cette vie-là qu'on m'a montrée depuis 12 ans, c'est-à-dire que l'exercer en tant que salarié, ça me convenait, mais je trouvais qu'avoir un restaurant, ça mettait d'une certaine manière une espèce de boulet au pied aussi, puisqu'on peut pas fermer son restaurant du jour au lendemain, on peut pas... on a énormément de charges, on a des salariés à qui on doit quand même une espèce de stabilité... Et moi, c'est vrai que ça m'a fait un petit peu peur. J'ai quand même cherché un restaurant, mais finalement... De fil en aiguille, cette idée de restaurant a été repoussée par des propositions d'événements, des propositions de création de cartes pour des restaurants qui n'avaient pas la possibilité de le faire tout seul, des fêtes d'anniversaire organisées pour des particuliers. Puis à chaque fois, ça repoussait le resto. Et puis à chaque fois, je me disais, mais en fait, je gagne mieux ma vie qu'avec un restaurant, avec un rythme qui est plus agréable et... pourquoi finalement pas avoir ce modèle-là, quoi ?
J'imagine bien. Sho, Jérémy, vous êtes rencontré au Chamarré. Je le disais, quand vous êtes sorti, est-ce que l'idée, c'était déjà de partir sur la route, en quelque sorte, ou vous aviez quand même en tête cette idée de restaurant fixe, ou plutôt le nomadisme vous convenait bien ?
Nous, quand on a commencé, ça a été assez simple. C'était d'un point de vue financier, c'était pas possible d'avoir un restaurant dès le début. Donc, on s'est tourné tout de suite sur ce pourquoi on avait la capacité de le faire, et c'était le food truck. Food truck, on pouvait commencer avec un petit budget. On a commencé tranquillement avec ce camion pour faire ses marques, pour rencontrer du monde et créer des contacts et un réseau, et aussi nous tester, parce que du coup, on était employés dans des restaurants, mais on n'avait pas ce côté dirigeant ou président d'une société à développer. Donc ça nous a permis aussi de mieux cerner ce qu'on était capable de faire, de mieux cerner comment on voulait proposer les choses et l'approche qu'on voulait y donner. Et par la suite, ça nous a permis aussi de montrer, d'un point de vue administratif, qu'on était capable de gérer une société et de débloquer des fonds pour pouvoir monter un restaurant.
Oui, on va y revenir. Chaud quand on passe de la cuisine du chamarret au food truck. J'imagine, évidemment, on ne fait pas la même cuisine, mais est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est plus de liberté?
C'était complètement différent. Parce que food truck, il n'y a pas de cuisine. Et mise en place, il faut organiser des laboratoires. Et il faut penser à stockage aussi. Et c'est complètement différent. Et le début, c'était un peu difficile, mais c'était une bonne expérience.
Et après, ça devient agréable. Qu'est-ce que vous aimez dans cette expérience du food truck?
C'est l'ambiance, c'est différent. Je voulais faire un peu convivial. Et c'est pour ça qu'on a commencé le food truck aussi.
Il y a cette idée de contact direct, effectivement, ouais. Et d'un peu plus de convivialité.
Voilà,
c'est ça. Effectivement, qui est important. Julie, finalement, vous qui les observez, ces chefs nomades depuis un petit moment, les SRF, sans restaurant fixe, c'est bien ça. C'est quoi quel est le profil, en général, de ces chefs qui sont sans restaurant fixe?
Souvent assez jeunes. C'est vrai que, en tout cas, en ce moment et même, on va dire il y a quelques années, à l'époque où Chloé, par exemple, a commencé, je pense que c'est une phase de transition. Enfin, j'ai ce sentiment-là que c'est une phase de transition où on fait ses armes de façon classique dans la restauration. On apprend, on emmagasine. Et faut quand même se donner des années, des nombreuses années, on va dire, pour bien apprendre. Et il y a un moment où je pense que les chefs enchaînent les expériences et où ils ont aussi envie d'un peu de liberté, de se faire connaître aussi. Aujourd'hui, ouais, c'est aussi une façon de se faire connaître, d'être résident, d'enchaîner les pop-up comme ça. Donc c'est vrai que c'est plutôt des personnes qui sont assez jeunes, entre 25 et 30 ans, je dirais.
Le temps de faire ses armes, on voit que ce soit ses armes pour pouvoir aller voir la banque après, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure, ou parce que ça ouvre les portes, plusieurs possibilités. Chloé, cette histoire de fulgurance, est-ce qu'on peut s'arrêter quelques minutes dessus? Parce que c'est vraiment ce qui met aussi le pied à l'étrier. Est-ce que vous pourriez nous rappeler le principe?
Bien sûr. Alors en fait, fulgurance, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ils ont quand même été assez précurseurs sur le sujet, étant donné qu'ils ont d'abord imaginé des dîners qui s'appelaient les seconds, sont les premiers, où ils mettaient en avant les seconds de restaurants qui étaient connus du grand public parce que très haut de gamme. Ils ont quand même commencé par taper fort en invitant le second du restaurant Noma à Copenhague à venir faire un dîner à Paris. Et ça voulait dire beaucoup parce que c'est vrai que derrière chaque grand chef, il y a forcément un voire plusieurs seconds selon la taille du restaurant et que le chef peut jamais rien faire tout seul. Donc c'est vrai que ces dîners-là, ils étaient très intéressants et ils se sont dit maintenant, on a envie d'aller plus loin. On va créer un restaurant. Et l'idée de départ de Fulgurance, c'est de donner une résidence plutôt longue, pour le coup, ce que je trouve assez intéressant, parce que souvent, c'est quand même assez court, et de proposer à ces anciens seconds de prendre leur première place de chef pour exercer leur cuisine pendant 6 mois environ. Que derrière, quand ils veulent ouvrir leur restaurant, ils puissent se soucier de tout, sauf de leur cuisine, finalement. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est quand on ouvre un restaurant, il faut être ultra carré sur la cuisine. C'est là où on imagine qu'on est le plus attendu. Mais il y a une quantité, il y a une part administrative qui est astronomique. Il faut penser à tout. Il faut manager des gens. Il faut respecter des normes gouvernementales et compagnie. Enfin, c'est tout ce dont vous parlez tout à l'heure. Et en fait, c'est vrai que là où c'est intéressant, c'est que, si on a déjà fait sa cuisine et qu'on va dire que sa cuisine, c'est presque le truc le plus facile, bah, c'est une charge mentale quand même en moins qui est assez énorme. Après, c'est vrai que finalement, ils se sont rendus compte que, tous les premiers chefs qui ont fait Fulgurance, on s'est surtout rendu compte qu'on voulait pas avoir de restaurant.
c'était
ça nous a finalement prouvé qu'en fait, on n'en voulait pas.
mais c'est vrai que cette idée de résidence, vous le disiez, là, c'était une résidence longue. Julie, celle sur laquelle vous travaillez, parce que vous êtes en collaboration avec, avec des chefs. En tout cas, donc l'idée de résidence, c'est bien ça, c'est d'accueillir dans un lieu d'autres chefs qui sont plutôt nomades. Quelles sont les conditions pour être acceptées et surtout les conditions de réussite? Qu'est-ce qu'il faut pour que ça marche bien, une résidence?
Bah, il faut une programmation assez cohérente aussi. Mmh. Enfin, moi, en tout cas, je le vois comme ça. C'est vrai que d'avoir, de cibler un profil type de chef, est-ce qu'on va faire une résidence plutôt gastronomique, plutôt bistrot, plutôt végétarienne? En tout cas, se fixer une ligne directrice et être assez cohérent globalement, parce que les clients, enfin, on vise un type de clientèle aussi, hein, donc faut qu'ils comprennent, faut que voilà, tout ça soit raccord. Il faut que après les chefs, il faut réussir à trouver des chefs aussi, ce qui
il faut que c'est un peu la cuisiner. Grosse. Pardon? Il faut qu'ils sachent bien cuisiner.
Oui, il faut qu'ils sachent bien cuisiner, tout à fait. Et c'est vrai qu'en ce moment, c'est vraiment un flux tendu entre les restos, résidences. Alors, il y a de plus en plus de chefs itinérants, mais il y a aussi de plus en plus de résidences. Il y a plein de restaurants qui se sont dit que c'était la solution, leur mène à tous les maux. Et donc, qui se lancent là-dedans. Nous, on reçoit des messages. C'est vrai que toutes les semaines, presque.
Ah oui.
Enfin, peut-être pas, mais voilà, plusieurs fois par mois pour nous demander de l'accompagnement sur ce format-là. Voilà, le marché du chef itinérant n'est pas non plus si extensible que ça.
Ouais, on va
donc
revenir.
Donc il faut
trouver le bon équilibre.
Voilà, imbriquer tout ça.
Votre expérience, Jérémy, c'était vous étiez les premiers chez Dame Jeanne dans le 20e. Qu'est-ce que ça vous a amené, cette résidence?
En fait, c'était la première fois où on quittait le camion pour déjà avoir une expérience dans un restaurant. Et Dame Jeanne, si on ne connaît pas le lieu, c'est vraiment un tout petit restaurant, il n'y a pas beaucoup de places assises, donc c'était pas énormément de risques, mais il y avait quand même cette envie de bien faire et de cuisiner autre chose que quelque chose qui est de la street food, parce que dans le camion, on se destine à proposer quelque chose d'assez simple et de rapide à exécuter, mais quand on arrive dans un restaurant, on attend quelque chose où il y a quand même un minimum de dressage dans l'assiette, il y a quand même une carte qui est un peu travaillée. Et là, Dame Jeanne, c'était un peu le challenge, même s'il n'y avait pas beaucoup de place, l'envie de bien faire et de se lancer sur quelque chose qu'on ne connaissait pas encore. Donc, on avait l'habitude de bouger avec le camion, de s'adapter dans des événements complètement différents, mais toujours avec la même cuisine. Là, c'était différent. On quittait notre cuisine et on posait nos valises dans un restaurant où on devait nous adapter à la cuisine, à la clientèle qui fréquentait déjà ce lieu-là.
Et aujourd'hui, que vous avez votre restaurant, vous accueillez vous aussi en résidence un petit peu?
Et maintenant, on accueille aussi en résidence des chefs. On essaye de proposer toujours une cuisine qui correspond aussi un peu à notre philosophie. Mais oui, on essaye d'inviter des chefs et de les mettre en avant. On essaye aussi de continuer à bouger et à s'exporter un petit peu en dehors de nos murs. Mais oui, on continue d'avoir des expériences avec des chefs qu'on reçoit chez nous et nous aussi des expériences en dehors du restaurant.
C'est un enrichissement?
C'est un enrichissement continu.
Chloé, vous êtes un peu plus réservée sur l'idée de résidence quand on a préparé ce podcast. Vous disiez, ce que disait un petit peu Julie aussi, il faut faire attention à n'y pas y aller à tout prix, ne pas faire n'importe quoi. Il faut avoir une certaine maturité peut-être.
Moi, je crois que, en fait, oui, c'est... Enfin, déjà, il faut avoir quand même une cuisine expérimentée pour pas non plus se retrouver un peu face à soi-même et des clients qui ont quand même une attente de clients, c'est-à-dire qu'ils viennent au restaurant pour manger, ils vont dépenser une certaine somme et voilà, il faut que ça soit bon. il faut que ça soit servi en temps et en heure. Enfin, tout ce savoir-faire-là, il est quand même assez important. Et surtout, moi, je trouve que c'est aussi un modèle qui est un petit peu border, dans le sens où généralement, c'est pas ce qui est le plus rémunérateur pour les chefs. Donc, c'est vrai que c'est compliqué de réussir à gagner sa vie si on fait que des résidences aussi, parce que bah, ça amène de la visibilité. Ça peut faire gagner un petit peu de sous, mais honnêtement, pas de quoi en vivre non plus. Donc, c'est vrai qu'il faut avoir une clientèle à côté pour pouvoir avoir un modèle économique qui soit viable. Enfin, c'est quand même, je veux dire, l'idée, certes, d'être chef volant comme ça, c'est chouette d'un point de vue créatif. Mais c'est quand même de réussir à
en vivre.
À en vivre et de s'auto-gérer finalement seul. Et enfin, moi, je sais que c'est la raison pour laquelle j'ai pas fait énormément de résidences. C'est parce que, à chaque fois, financièrement, c'était pas forcément intéressant, quoi.
Mais après, il y a le côté enrichissement, effectivement, ouverture d'esprit qui permet aux uns et aux autres peut-être davantage de se retrouver.
Après, ça dépend des modèles. Par exemple, le modèle de Fulgurance, il est là où il est vachement bien pour les chefs, et c'est que le chef est salarié.
Ouais.
Donc, c'est forcément différent, et c'est aussi ce que permet la résidence longue. Donc, ça dépend vraiment. Et en fait, c'est chaque restaurant de résidence, finalement, vu que maintenant on peut les appeler un peu comme ça, a un peu son, enfin, fixe un peu ses propres règles pour ce qui est du salaire. Et alors, je pense que ça dépend aussi un peu de la personne qui vient, qui pose ses valises et de combien de temps elle les pose. Mais c'est vrai que c'est pas un modèle qui est si simple que ça.
Mais en tout cas, c'est une proposition parmi d'autres quand on est effectivement sans restaurant fixe ou qu'on a envie d'être nomade et d'avoir plusieurs propositions.
Ça permet surtout de pratiquer.
Ouais, c'est ça, exactement. Donc, il y a un moment où vous posez vos valises, les uns et les autres. Enfin, plus ou moins d'ailleurs, parce que vous disiez, vous continuez à partir en résidence, Jérémy, à droite à gauche, à accueillir. Et Chloé, vous, votre lieu, Lago, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est tout sauf un restaurant classique.
Alors,
c'est marqué sur la porte.
C'est marqué sur la porte.
Ce n'est pas un restaurant.
Alors en fait, comme je voulais pas de restaurant, j'ai acheté un restaurant. mais pour ne pas en faire un restaurant, en gros l'idée de Lago, c'est que c'est la. Pour moi, c'est pas un début en fait. Lago, c'est vraiment la continuité de mon activité de Golvelante, comme j'aime bien l'appeler. C'est-à-dire que chez Lago, c'est un mix entre chez moi et mon restaurant quand même, parce que j'ai une cuisine professionnelle avec de quoi accueillir des gens, à l'exception que en fait on peut pas passer et venir manger, il faut réserver la totalité de l'espace pour un minimum de 10 personnes, jusqu'à 25 personnes assises et 50 debout qui viennent manger sur place. Et après, on peut continuer l'événementiel comme j'aimais le faire aussi, comme j'aime toujours le faire d'ailleurs, parce que j'ai fait 300 couverts hier soir. C'est-à-dire qu'en fait, c'est aussi un espace qui me permet de produire les événements extérieurs avec une cuisine professionnelle, une équipe qui peut travailler dans des bonnes conditions et les espaces de stockage nécessaires pour faire aussi bien, dans la même semaine comme c'est le cas cette semaine, 9 couverts que 300, quoi.
Donc effectivement, c'est de l'événementiel local, sur mesure.
En fait, c'est vraiment sur mesure, parce que contrairement à un traiteur qui va préparer pour plusieurs prestations en même temps, il y a potentiellement plusieurs prestations par jour. Nous, on s'occupe d'un client à la fois à chaque fois, avec des briefs qui sont très précis et qui sont demandés par nos clients. Et finalement, c'est ça, je pense, qui fait que ça marche aussi, c'est que on apporte le même soin à 9 couverts qu'à 300. Donc c'est ça aussi qu'on aime bien, c'est que hier on est sorti de notre cuisine, on s'est retrouvé sur un parking à Beson à griller des saucisses et faire des hot dogs, un peu comme potentiellement vous pourriez faire avec le food truck. Et demain midi, il y a 17 couverts en format cocktail déjeunatoire où je vais faire des petites bouchées sur des petites tartelettes toutes mignonnes, toutes bien dressées avec des petites herbes.
C'est cette liberté-là, effectivement, et cette créativité-là que ce projet vous permet. Chaud, Jérémy, vous vous êtes posé en 2019, vous avez fait des travaux chez Aïkara Summer, donc petit Covid en passant, voilà. Super expérience. Vous le disiez tout à l'heure, finalement, c'est grâce au bilan que vous avez, pu vous présenter aux banques. Seulement, vous réouvrez pendant le Covid.
Complètement.
Donc là, vous faites des petits kits de ramen, ça marche bien. Et là, vous dites, très bonne idée d'avoir conservé le camion.
Bah, bonne idée d'avoir conservé le camion, parce qu'à cette époque-là, on était bloqué avec l'incapacité de recevoir à l'intérieur du restaurant.
Et tout
du
neuf.
Coup, tout neuf. Et donc, la seule possibilité qui s'offrait à nous, c'était soit de faire de la vente à emporter, soit de faire de la livraison en passant par les plateformes. On a toujours été un peu... anti-Uber et anti-Deliveroo, donc on évitait de passer par ces plateformes de distribution. Et donc on se dit, qu'est-ce qu'on a envie de manger pendant le Covid et qu'on n'arrive pas à trouver, c'était des ramen. Donc on a déconstruit un peu le ramen, on en a fait des kits et on les a proposés à la clientèle de quartier, ça a pris un peu plus d'ampleur et du coup on a été amené à les livrer directement avec le camion, chaud préparé le matin, entre 200 et 300 portions, et on distribuait ça dans la journée. Et ça nous a permis, en tout cas, de tenir pendant la période de Covid, de développer quelque chose, de nous faire connaître aussi, et puis à la fin de cette période-là, on a pu ouvrir le restaurant et commencer directement sur les chapeaux de roue.
Et aujourd'hui, 2023, ça marche tellement bien que vous ouvrez un deuxième restaurant.
Et on ouvre un deuxième restaurant. On est en train de faire les travaux dans la poussière pour l'instant, mais normalement, prochainement, on devrait ouvrir.
Donc, c'est ça. Vous êtes vraiment fixés, là. Vous vous fixez tous les deux.
On a pris la décision de rester dans l'idée d'avoir des restaurants, même si c'est vrai qu'on conserve l'idée aussi de pouvoir bouger. On ne veut pas rester enfermé complètement.
Et vous avez toujours la camionnette, d'ailleurs.
Et on a toujours la camionnette.
On ne sait jamais.
Pour faire des événements
parce que ça, vous
de
en
manière
fait,
récurrente.
C'est ça. On peut pas, à un moment donné, se fixer totalement. On sent que ça reste toujours derrière. Vous vous dites, même si on se fixe, il faut...
C'est ça qu'on aime, je pense, c'est que justement ça change tout le temps et que c'est tous les jours différents. Mine de rien, même si dans un restaurant on dit qu'il y a tous les jours sont différents et c'est plutôt vrai, on arrive tous les jours au même endroit, on fait tous les jours plus ou moins la même chose et on y trouve une satisfaction. Moi j'aime bien retourner de temps en temps à des services relativement classiques, mais quand même, il faut que ça... Enfin, pas trop longtemps non plus, quoi.
Il faut que ça bouge. Chaud, c'est ce que vous aimez aussi, changer comme ça?
Des fois, c'est difficile, hein, parce que chaque fois, il faut changer les menus, chaque fois, il faut changer les emplacements. C'est tout le temps différent. Et du coup, chaque fois, c'est challenge.
Ouais.
Mais les restaurants, c'est tu fixes le menu, ça bouge pas d'adresse.
Et c'est tranquille.
C'est différent, ouais.
On dirait pas tranquille. On dirait juste différent. Je dirais pas que c'est tranquille non plus.
C'était provocateur. Julie, on l'a vu, la mode des food trucks, finalement, elle est un petit peu passée. On en voit un peu moins. Je crois que vous avez travaillé plutôt beaucoup pour des particuliers et moins pour le grand public. On l'a parlé, les multiprésidences dans toute la France. Est-ce que c'est une tendance éphémère ou c'est un modèle qui va perdurer un petit peu, selon vous, ces chefs sans restaurant fixe?
Je pense que ça va perdurer. Pour moi, c'est un nouveau modèle qui va s'inscrire, enfin voilà, qui commence à s'inscrire dans le paysage et qui va durer parce que ça correspond, à aussi une demande de variété, d'événementialisation de la part de la clientèle. Même c'est vrai que comme le disaient Cho et Jérémy, même dans leur restaurant, les clients, ils sont aussi curieux. On vient, tiens, là aujourd'hui, c'est pas Cho, c'est un autre chef. Et on est content aussi de découvrir. Enfin, ça m'est arrivé d'aller manger chez eux. Et c'était pas Cho derrière la cuisine, c'était une chef et j'ai fait une super découverte. Et là, c'est l'exceptionnel dans leur restaurant, mais c'est vrai que ce format de resto-résidence, comme disait Chloé, Fulgurance était un des premiers, enfin le premier sans doute à Paris à faire ça. Il y a eu des bébés et je pense que ça va rester dans le paysage. Ça va se développer dans toute la France, tout à fait. Il y a des chefs pour ça. Après, je pense pas que ça va s'étendre de façon exponentielle. Là, on arrive un peu, en tout cas à Paris, à saturation. Mais ça va se développer dans toute la France et puis ça correspond à des demandes des deux côtés clients, côté chef.
Et
ça va prendre sa place dans le paysage.
Ouais, c'est un peu ce qu'on voit dans les entreprises aussi.
Après, je pense aussi qu'il y aura, il y a quand même de plus en plus de chefs qui choisissent ce modèle-là. Moi, quand j'ai commencé il y a 7 ans, il y avait Céline Pham encore avant moi qui faisait déjà ça. Les journalistes me disaient, ah non, mais toi, on peut pas parler de toi parce que t'as pas de restaurant. Donc je peux pas écrire article, je peux pas, enfin, on me disait, bah ouais, mais du coup tu fais quoi, je comprends pas trop, c'est quoi ton modèle, bon c'est un peu bizarre, d'accord, bon bah on passe. Et c'est vrai que aujourd'hui c'est devenu complètement différent, c'est pas parce qu'on n'a pas de restaurant qu'on peut pas parler de certains chefs, et ça prouve aussi que c'est rentré quand même dans les mœurs finalement.
Ouais. Mais c'est vrai que en même temps je pense que le statut de chef itinérant, on le voit avec les différents exemples, Chloé, on parlait de Céline Pham, tout le monde a fini par se poser quelque part.
Clairement.
Et en tout cas, poser un pied.
Voilà, tout à fait. Et comme disait Chloé, je pense que c'est fatigant. Donc, au bout d'un moment, on a quand même envie de se poser, en tout cas de poser ses couteaux quelque part. Et c'est pour ça que aussi sur les profils, souvent, ouais, c'est des personnes un petit peu jeunes. Et après, quand ils auront, enfin tous les chefs qui tournent en ce moment dans les résidences, au bout d'un moment, ils vont sans doute finir par se poser, mais ils seront remplacés par d'autres. Ouais. Et je pense que ça va rester quand même.
Après, il y a aussi un truc qui est assez chouette avec ce modèle-là, c'est que tout à l'heure, je parlais de modèle économique. Au final, quand on est chef itinérant comme ça, on prend pas énormément de risques parce qu'on fait un métier dans lequel il y a le plein emploi, et voire même plus que le plein emploi, on est sans arrêt à la recherche de personnel. On n'a que soi à payer, pas d'emprunt à rembourser, pas de local. Quand on doit payer de la marchandise ou louer une cuisine, c'est parce qu'on a vendu une prestation. Donc, en fait, ces frais-là, ils sont inclus dans la prestation. Donc, c'est vrai que moi, ce que j'ai aimé aussi dans le modèle au tout début, c'est que je prenais pas énormément de risques, en vrai. C'est-à-dire que moi, pendant le Covid, j'étais sous ce statut-là. J'étais quand même bien contente d'avoir, à part à me payer moi-même, mais j'avais réussi à mettre de l'argent de côté, donc ça allait. J'avais rien à payer, pas d'employé, rien du tout. Donc c'est aussi l'avantage, c'est que même si ça marche pas parce que on n'a pas réussi à transformer l'essai, à faire des résidences ou à trouver des clients, au pire on trouve une place de chef ou de second, de chef de partie quelque part, on recommence à travailler et c'est très facile finalement.
Ouais. Mais finalement l'histoire que vous racontez, et puis on va terminer là-dessus, c'est que on a l'impression que c'est bien en parallèle comme la vie, finalement, comme la vie privée, c'est-à-dire que on va voir le monde, on va voir comment ça se passe, on tente plein de choses, et puis à un moment donné, peut-être qu'on se pose, peut-être qu'on fonde une famille, peut-être quelque chose comme ça, et j'ai l'impression que c'est un petit peu dans cette veine-là, Jérémy. Vous vouliez rajouter quelque chose ?
Non, j'étais d'accord sur le fait que c'est pas si évident que ça d'être chef itinérant, et que du coup, il faut quand même une identité assez forte pour amener du monde dans un restaurant, et on a la chance aussi d'une chose qui a beaucoup été développée ces dernières années, c'est les réseaux sociaux sur lesquels on peut être amené à communiquer, chose qu'avant, on utilisait beaucoup moins. Et là, maintenant, on est vraiment sur cette génération où même si on n'a pas de restaurant, on a quand même cette capacité à communiquer sur ce qu'on fait en cuisine à travers les réseaux sociaux. Il y en a qui en jouent mieux que d'autres, mais après, vraiment, c'est un marché qui est
à prendre. Et ça permet de suivre effectivement l'itinérance quand on est sans restaurant fixe. Et oui, ça, les réseaux sociaux, on avait fait tout un podcast aussi là-dessus sur l'importance de ces réseaux sociaux. Merci beaucoup à tous les quatre. On était ravis de vous avoir pour ce podcast. On va continuer à vous suivre dans vos restaurants ou en itinérance. Merci beaucoup aux équipes Ferrandi. Merci à Étienne Blanchard pour la réalisation. Prochain épisode du podcast, à demain. Comment concilier voyage et éco-responsabilité. À bientôt.